Et pour faire ensemble le diagnostic de l'économie française, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nathalie Janson. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël.
Professeure d'économie à Neoma Business School et présidente du think tank libéral Génération Libre. À vos côtés, Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Et Jean-Hervé Lorenzi, qu'on ne présente plus. Cher Jean-Hervé, bonjour.
Bonjour.
Président du Cercle des économistes des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je voulais qu'on commence par l'étude d'EY. Évidemment, c'est la grosse actualité du jour. Aujourd'hui, c'est la une de nos confrères de la Tribune ce matin avec... Bon, Ludovic, je commence avec vous. On va faire un peu la synthèse. On est content, ça fait 7 ans qu'on est champion d'Europe de l'attractivité. Ouais. C'est quand même le signe que tout ne va pas si mal. On fait un peu la chronique de tout ce qui fonctionne mal au niveau économique dans ce pays. Et Dieu sait qu'il y a quelques sujets sur la table. Il n'empêche que si on reste première destination pour l'investissement étranger en Europe, les entreprises, elles sont rationnelles. Les investisseurs, ils sont rationnels. C'est que ça fonctionne pas si mal, finalement.
Non, il y a un constat positif, c'est que la France reste leader au plan européen, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, donc même si les positions se resserrent. Après, la lecture macro, et c'est là où vous allez m'en vouloir tout de suite, Raphaël, la lecture macro, c'est qu'évidemment, on reste leader dans un mouvement qui est en train de se contracter à grande vitesse. C'est-à-dire, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que la France, l'attractivité de la France reste là. C'est un pays qui est plébiscité et ça reste un point d'ancrage et d'entrée pour le marché européen en termes d'investissement étranger. Merci. Et notamment, merci parce que je pense qu'on est beaucoup aidé par notre position géographique et nos infrastructures.
Bien sûr.
Pas tant par notre système fiscal, on va pas se mentir. En revanche...
Non mais voilà, on va passer un peu en revue les points positifs.
En revanche, et tout ça dans un cadre où l'Europe est en train de perdre son souffle.
Et on voit les investissements, c'est en fait l'ensemble sur Allemagne, Angleterre, on est le trio de tête, c'est France, Angleterre, Allemagne. Tout baisse. Les investissements baissent chez nous, mais pas que chez nous. Nathalie, qu'est-ce que vous avez retenu de ce baromètre EY?
Ce que j'ai retenu surtout, c'est effectivement l'impasse politique qui pèse en fait sur cette première place aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on voit bien que non seulement on paye les conséquences de ce qui s'est passé au niveau de la dissolution, mais on rentre dans un attentisme pour savoir ce qui va se passer en 2027. Donc, comme vous l'avez très bien dit en introduction, en fait, le problème, c'est le cap. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien quel cap a aujourd'hui la France. On ne sait pas bien, en fait, non plus quelle force politique sera au pouvoir. Mmh. Forcément, ça, comme on sait très bien que ce qui est important dans l'investissement, c'est essayer d'avoir le moins d'incertitudes possible. Et évidemment, une entreprise prend toujours des décisions en incertitude. Mais là, cette dimension politique en rajoute une. Et ce qui s'est passé depuis la dissolution, effectivement, a été très dommageable. Puisque là, c'est pas seulement qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, ça changeait tout le temps. On avait un espèce de message, faut contrôler les finances publiques. Et puis, en fait, vous aviez le rêve et la réalité. Il y avait une dissonance cognitive permanente qui n'est pas de bon augure, effectivement, lorsqu'on est investisseur international. Donc, en effet, on a plein de choses pour nous. Mais là, on s'est un petit peu on s'est mis du plomb dans l'aile à cause de ces incertitudes cumulées.
Bon, les investissements qui fonctionnent bien.
Non, juste une parenthèse. C'est quand même merveilleux. On est exactement dans ce que j'entends. Je suis pas tout jeune. J'entends depuis toujours, mais c'était bien avant les générations. Mettons qu'il y ait une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Je veux dire d'arriver. Il se trouve que l'Europe marche pas du feu de Dieu. Elle est vieillissante. Elle est pas très bonne technologiquement, etc. Mais ça, c'est pas la France. C'est l'Europe. Et c'est plutôt bien d'être premier. Moi, j'ai toujours préféré être premier, très rarement, que second. Et tout de suite, on explique que, attention, mais ça va pas durer, etc. Si on pouvait pendant quelques secondes,
champagne,
se dire, c'est pas si mal
célébrer
que ça, ça n'a échappé à personne qu'il y avait un problème politique en France, il y en a en Allemagne, il y en a à peu près partout. Aux États-Unis, il y en a partout. Donc, il se trouve que le monde entier est frappé par une espèce de difficulté à gérer une énorme transition qui nous dépasse tous. Moi, je résume juste la situation pour mon amie Nathalie. On est passé de l'incertitude que on adore, nous les économistes, évoquer à propos des décisions, des investissements, des entreprises, à l'inconnu. Moi, j'ai pas la queue d'une idée. Personne ici n'a qu'une idée de ce qui va se passer dans 6 mois. Personne. Ce que sera la conjoncture mondiale, personne. Ce que sera la conjoncture en France, personne. Je veux dire, donc, prenons juste, attrapons cette bonne nouvelle que la Tribune nous annonce avec EY. Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle, j'y rajoute le fait que ça n'est pas dans le papier de la Tribune, mais c'est normal. Mais je suis frappé aussi de voir que, au fond, quand j'étais très jeune, on était un pays très ingénieux. On disait, c'est formidable, il y a les Caravelle, la DS, etc. Mais on disait, c'est un pays d'ingénieurs, oui. Ils savent pas vendre, etc. Puis, on est devenu champion de la finance, on a voulu dans les services. Et je suis frappé de voir que dans les technologies les plus avancées, on est récemment en train d'avoir un petit rebond. Oui. On verra si ça marche.
Je voulais qu'on fasse un point là-dessus sur l'IA, parce que ce qui tire les investissements, c'est très clairement l'IA.
Bien sûr.
Et on est les numéro un en Europe, ça, on peut s'en féliciter.
Ça c'est la très très bonne nouvelle, parce que c'est très clairement la France, et on dit hein, aussi sur ce plateau, parce qu'on n'est pas que dépressif, la France via Mistral, via les data centers et autres, arrive quand même à rester dans la course. On n'est pas leader, on va pas se mentir, mais on reste dans la course.
Ça, non, c'est mais bon, très, très là on est leader, juste, oui, je t'interromps une seconde.
Trois modèles, parmi les 40 premiers au monde.
Une seconde, par exemple, en quantique, il y a toute une chaîne de technologies.
Des annonces cette semaine, d'ailleurs.
Là, il est vraisemblable, alors je vais citer le nom d'une entreprise avec laquelle je n'ai aucun lien, qui s'appelle Colby, et il est vraisemblablement la boîte la plus, technologiquement, une des plus avancées au monde. Et il n'y a pas d'équivalent en Europe.
Et ce qui est intéressant dans le baromètre EY, juste pour qu'on quantifie, hein, c'est que EY a répertorié de mémoire 53 projets l'année dernière sur le terrain IA. C'est la variation qui est intéressante, c'est plus 26%, alors qu'on est dans quelque chose de baissier. En revanche, alors là, Jean-Hervé, ça, il va me détester et tout ça, mais c'est, en revanche, la mauvaise nouvelle là-dedans, et ça, c'est parce qu'on sait tous que c'est aussi un indicateur un peu avancé, c'est l'énorme coup de frein globalement sur la R&D. Ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Parce que là, par contre, en R&D, on a un coup de frein globalement, je sors de l'IA, de 47%. Or, la R&D, et je regarde vraiment Jean-Hervé, parce que c'est une des problématiques, c'est-à-dire que c'est à quel point, au-delà de l'IA, on a du mal quand même, la France, là, je vais vraiment parler de la France, c'est valable ailleurs, mais de surfer, de prendre cette liane qui est aujourd'hui nécessaire au plan économique, celle de l'innovation, qui est notre tremplin. C'est-à-dire que si on ne saisit pas ce tremplin, tout va devenir compliqué.
En même temps, sur le quantique, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal en recherche fondamentale.
On n'est pas encore sur des industries installées. C'est-à-dire, le quantique, c'est demain. C'est là, aujourd'hui, il y a des ruptures technologiques et industrielles. Et aujourd'hui, il y a l'annonce du plan Stellantis. Le plan Stellantis, on va bien comprendre qu'il va se jouer en grande partie en dehors de la France et en dehors de l'Europe.
Ce coup de frein sur la R&D, Nathalie.
Le coup de frein sur la R&D, voilà, ça va être lourd. C'est effectivement quand on a une incertitude, alors qu'il devient une incertitude radicale. Donc voilà, qu'on a du mal, qu'on ne peut pas en fait rentrer dans les chiffres.
Il y a une
recherche
quand même qui est censée un peu dynamiser ça.
Là, en effet, ça plombe en premier lieu la R&D. Et puis de toute façon, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que nous avons un mode de financement qui n'est pas très adapté pour financer justement les innovations. Puisque l'innovation, ça demande beaucoup de capital risque, et là-dessus, on n'est pas bon.
La profondeur des marchés de capitaux.
Et oui, la profondeur des marchés n'est pas là, on a la BPI, d'accord, mais en fait, ça ne suffit pas, il ne faut pas qu'une BPI...
Nathalie, avant la fin de l'émission, j'aurais réussi à te t'arracher un truc positif.
Mais non, c'est positif.
Alors, voilà...
On a deux camps qui s'opposent. Oui.
Mais c'est pas supposé.
Il y a le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté.
C'est quand même la caractéristique française depuis 2000 ans, c'est quoi qu'il arrive, on est toujours en train d'expliquer que tout est dramatique.
Pas du tout, mais moi je ne dis pas que tout est dramatique, je dis simplement que pour les investissements de demain, il faut effectivement cette capacité à financer l'innovation, que malgré tout, c'est vachement bien ce qu'on arrive quand même, puisqu'on a justement Mistral, mais qu'on pourrait faire beaucoup mieux si, effectivement, on avait fait autrement, c'est tout ce que je suis en train de dire.
Je vais te dire, ma chère Armin, notre problème, il est que nous sommes un pays béni des dieux, riche, on parle de géographie, mais on a un pays d'avoir béni des dieux, mais vieillissant, et que les vieux, dont je fais partie, ils ont horreur du risque. Ça n'a rien à voir avec ni la France, ni Octru. Il n'y a pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour savoir qu'il y a une relation entre l'âge et la prise de risque. Et que ce pays qui est en réalité, qui dispose de beaucoup de capacités de financement, elle est entre les mains des gens, des retraités, ils ne prennent pas de risque majeur.
Ludovic.
Il y a une autre lecture sur ce baromètre, EY, qui me semble opportune, en tout cas, d'adresser, c'est, et je suis entièrement d'accord avec Jean-Hervé, j'allais dire, célébrons la position de la France et le fait d'être numéro un. Ce que raconte quand même ce baromètre en creux, c'est que l'attractivité de la France est maintenue, mais le couac là-dedans, c'est pas tellement la France, c'est que c'est les investissements étrangers qui baissent de partout dans le monde. Et ça, c'est pas de la faute de la France.
Alors, partout dans le monde.
C'est-à-dire que quand on voit que l'Allemagne, c'est un coup de frein de 26% sur les investissements étrangers, c'est pas la France qui est responsable, c'est que l'Allemagne va le mal. Quand les États-Unis baissent de 14% l'investissement étranger, c'est qu'il y a des questions aux États-Unis. Quand le Royaume-Uni baisse ses investissements, c'est-à-dire que, en fait, chaque pays, ce baromètre traduit le fait que chaque pays a des problématiques à adresser et que c'est globalement une contraction et on reste leader dans des questions que tout le monde est en train de croiser. Et c'est une réalité, en fait.
Bon, en même temps, on a trois méga IPO qui arrivent, Anthropic, OpenAI et SpaceX. C'est-à-dire, c'est trois fois 1000 milliards.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a des capitaux, il y en a quand même qui tournent et c'est une autre échelle. Hein. Je crois que le président de la République doit annoncer des investissements en fin de semaine. On est sur... on va chercher 1,5 milliard, 2 milliards en France 2030 pour aller financer des programmes quand on est... Voilà, la nouvelle échelle, c'est en milliers de milliards de dollars. Derrière l'IA, quand même, je voulais souligner des secteurs qui souffrent, et c'est ce que souligne l'étude EY. Pardon, hein, le pessimisme de la raison, cher Jean-Hervé, mais l'automobile, la chimie, l'automobile,
ah, attendez, dernier,
Poissy, la chimie, la plasturgie ou la métallurgie, derrière l'arbre de l'IA, eux vont plutôt mal.
Ouais, là, c'est
nous, avons deux, nous avons deux défauts de caractère. Le premier, c'est mais ça, c'est français. Jamais on entendrait un discours pareil en Allemagne. Toujours d'expliquer que derrière une éventuelle bonne nouvelle ou nouvelle moyenne, il y a tout ce qui est mauvais.
Ah, mais on peut décortiquer.
Et deuxième caractéristique, sur le crédit impôt recherche, les économistes, dont nous faisons tous les trois parties, cette catégorie de gens très sympathiques, mais ils adorent les effets d'aubaine. Ça, c'est le sujet sur lequel on se déchaîne.
Oui.
Il se trouve que le crédit impôt recherche est une des raisons, d'ailleurs, favorables à l'avenue d'entreprises en France, d'investissement, mais c'est exactement comme l'apprentissage. On dit oui, mais ça touche une catégorie, je sais pas bien.
C'est trop concentré, que c'est les grands groupes qui en profitent.
On commence à expliquer, il faut le réduire parce que ça te
commence
pour l'apprentissage. Donc on a ce, je trouve que le crédit d'impôt recherche est une très bonne chose. Attention,
il faut le défendre parce qu'il est attaqué à chaque projet de loi de finances.
Mais attendez, ça c'est la logique absolue du discours sur l'effet d'aubaine, qui est le bain préféré. Des économistes, comment expliquer qu'il y a toujours un effet d'aubaine? J'ai jamais vu une mesure qui n'a pas un effet d'aubaine.
Bon, je voulais qu'on parle industrie parce que je voulais qu'on parle impôt de production aussi. Hasard du calendrier ou pas, la Direction Générale des Finances Publiques, des services de Bercy, a publié il y a 48 heures une note sur les impôts de production, sur le montant global des impôts de production qui devaient baisser sous le quinquennat, qui atteignent quasiment 100 milliards d'euros. Tout le monde ne sait pas ce que sont les impôts de production. Je voulais qu'on y revienne un peu, bien expliquer ce mécanisme, expliquer comment ça joue sur l'activité, le point de rentabilité des entreprises, pour arriver à quand même une sorte de hiatus entre on veut réindustrialiser d'un côté et en même temps on taxe l'entreprise. Vous créez une usine, vous taxez, vous achetez une machine, vous taxez, et dès que vous produisez plus, on taxe encore plus. Nathalie, c'est quoi un impôt de production d'abord? Qu'est-ce qu'on met dans les impôts de production? Quelle est sa spécificité?
En fait, les impôts de production, donc, il y avait deux principaux, c'est CVAE et C3S. L'idée, c'était d'avoir effectivement un financement qui pouvait d'ailleurs aller, qui va aux collectivités locales, donc oui. Qui permet effectivement de financer tout l'environnement d'une entreprise, qu'une entreprise, elle ne fonctionne pas au milieu de rien, hors sol. Donc voilà, donc l'idée est d'avoir une stabilité des finances de ces collectivités, c'est une bonne idée. Simplement, effectivement, comme ces impôts sont payés avant même qu'en fait il y ait des profits, puisque c'est pas justement sur les profits, eh bien, ça pose la question en fait du coût fixe d'entrée.
Et oui.
Finalement,
c'est ça la spécificité, c'est qu'on n'a pas fait un euro de bénéf, qu'on est déjà.
Voilà, qu'on est déjà taxé. Et si vous effectivement, si vous faites, c'est pénalisant si vous, par exemple, vous prévoyez d'investir et de rénover vos installations, elles valent plus cher, donc vous allez payer plus cher d'impôts. Enfin voilà, donc ces impôts de production, en effet, sont très caractéristiques. caractéristiques de la France. Comme vous l'avez rappelé, on en a quatre fois plus en France quand on compare à l'Allemagne. Donc, en effet, ce n'est pas un facilitateur pour, effectivement, ça désincite, en fait, à s'installer, même si les investisseurs étrangers sont toujours aussi élevés. N'empêche que ce n'est pas, si on veut.
Alors, j'ai gagné pour Paris.
Non. Je ne suis pas du tout pessimiste, contrairement à ce que vous pouvez interpréter sur les classements. Je dis simplement qu'on pourrait faire mieux, c'est tout. Je pense que dans ces investissements et la place de la France au niveau de l'activité pourrait être supérieure si effectivement on n'avait pas tous ces boulets. Donc effectivement, compte tenu de tous ces boulets, on se débrouille bien. Mais les impôts de production, en effet, étaient fortement réclamés. On voulait qu'ils disparaissent. Effectivement, projet de loi de finances, enfin, chaque loi de finances est revenu, en fait, les dernières sont revenues sur cet engagement. Et finalement, ils n'ont pas baissé autant qu'ils le devaient. Et ça reste donc, en effet, un frein pour l'installation. C'est une désincitation supplémentaire.
Promesse non tenue, effectivement. Gervé, vous proposez une révolution fiscale. On va y venir dans la seconde partie de l'émission, mais un point précis sur les impôts de production. Est-ce qu'on en a trop ou est-ce que, les investisseurs viennent...
Mais de manière un peu plus brutale, c'est des impôts qui sont stupides par leur ampleur, stupides par leur mécanisme, au fond, une entreprise. Le bon capitalisme tel que le décrivait Max Weber, c'est je fais des profits, j'investis, je fais des profits et je les réinvestis. Non pas je rachète des actions, mais je les réinvestis. Il se trouve que c'est aussi, j'allais dire, aussi un curieux et inintelligent que le rachat d'actions. C'est l'idée qu'au fond, l'objectif la mécanique du capitalisme, c'est en permanence de créer de la valeur, de créer de la richesse, de créer de l'investissement, de créer... Donc l'impôt de production qui prélève avant qu'on ait fait le profit est absurde. C'est d'ailleurs le bon argument qui avait été utilisé contre la taxe... comment elle s'appelait
Zucman.
C'est la même chose. C'est la même idée que on ne prélève pas ce que tous les pays du monde font. Il y a des prélèvements, il y a des taxes, il y a des impôts depuis que le monde est monde, mais on prélève sur quelque chose, de la valeur qui a été créée.
Sur le flux plutôt que sur le stock. Bah, est-ce qu'on peut... Moi, ce qui me fascine, c'est ce hiatus entre le discours politique qui vous explique à longueur de journée qu'il faut absolument réindustrialiser ce pays et ses 100 milliards de taxes sur la production. On est quand même dans une sorte de dissonance cognitive, comme le disait Nathalie tout à l'heure.
Non, mais
est-ce que ça explique une partie des problèmes de réindustrialisation?
96 milliards, 100 milliards, c'est-à-dire que la question est presque, presque idéologique, en fait. C'est réellement, c'est-à-dire, c'est dans la façon d'appréhender ce qu'est un outil de production, un développement économique, c'est-à-dire, en fait, c'est une manne qu'on peut aller taxer. Et j'en fais pas une lecture politique, j'en fais juste ce que peut être le rapport de ce pays par rapport à l'économie et à la capacité à créer une entreprise, à la développer, à investir et tout ça. Donc on s'y prend à l'envers. Moi, le constat de la DGFiP, et c'est un constat qu'on croise régulièrement, plaide vraiment pour une grande remise à zéro de la fiscalité autour des entreprises. C'est-à-dire que on a tout à l'heure Jean-Hervé a parlé du crédit impôt recherche. Là, on parle maintenant de la partie la taxation sur la production. Enfin, c'est un jeu à somme nulle qui ne va absolument pas, mais surtout qui ne plaide pas pour que ce pays, et on en a besoin collectivement, se reformate dans son économie. Parce qu'il y a un enjeu de reformater notre économie, notre tissu industriel. On est en train de voir l'économie des batteries nous passer sous le nez, on est en train de voir des développements technologiques nous passer sous le nez. Ça ne nous aide pas. Cette fiscalité ne nous aide pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est chouette, il y a de l'investissement étranger en France, mais il faut aussi que les entreprises françaises qui existent sur le terrain aient envie de se développer, d'y croire. Et honnêtement, quand on voit les chiffres, c'est un fardeau sur les épaules.
Alors, juste peut-être un regard malheureux. Alors là, je vais être un peu pessimiste. C'est le choix de la désindustrialisation en France n'est pas uniquement lié aux impôts de production.
C'est un choix.
C'est celui de ma génération. Nous sommes devenus les champions de la finance. Alors c'est vrai que la place financière de Paris marche bien.
Oui.
Ça, il faut reconnaître.
Grâce au Brexit.
Il y avait les services et le tourisme. Le service et le tourisme. Et cette idée d'avoir envie de créer. Parce que les impôts de production ne datent pas d'hier. Et il y a 30 ou 40 ans, on était ingénieux, soucieux d'industrie, totalement déchaîné sur une capacité de rebond incroyable. Il faut toujours rappeler ça sous Giscard. On était nuls en téléphonie. Giscard lance un plan téléphonie. En 5 ans, on devient le premier producteur, pas fabricant, mais fournisseur de réseaux numériques et intégration de services. Je veux dire, mais ça, c'était l'envie. Pour faire de l'industrie, il faut avoir de l'envie. Or, les impôts de production, c'est une bêtise parmi d'autres. Mais je veux dire, c'est malheureusement, notre désindustrialisation est un peu plus profonde. Il me semble qu'il commence à y avoir un mouvement, il faut en avoir envie.
Bah, depuis Arnaud Montebourg, on parle de réindustrialisation. Hein. C'était le ministère du redressement progressif. Ça fait quand même... productif, pardon, ça fait 15 ans maintenant, et on voit qu'on a du mal. Hein. Ça a fonctionné au début, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Là, on ferme plus d'usines, corrigez-moi si je me trompe, mais on ferme plus d'usines qu'on en ouvre aujourd'hui.
Le bilan 25 est négatif.
Il est négatif, oui.
Il est négatif, hein, très clairement, en termes d'entité industrielle.
On a plus de ferme. J'insiste sur le fait que les ingénieurs de grandes écoles préféraient partir faire de la finance.
Oui. Alors, et puis c'était l'époque de la faiblesse. Enfin, Serge Turuc, fin des années 90.
Il y a peut-être un moment qui est en train de se dessiner. Parce que, je veux dire, comme tout dans la vie, je veux dire, derrière les impôts, c'est un bout du sujet.
Oui, y a parce que l'industrie attire
le désir, le projet. Au fond, on voit beaucoup d'ingénieurs qui, aujourd'hui, de jeunes ingénieurs qui se disent que c'est plus amusant, peut-être en tout cas dans le début de leur carrière, de faire partie de cette incroyable révolution industrielle auquel on assiste. Donc il y a quelque chose peut-être qui se passe, pas particulièrement en France, mais il se trouve qu'il y a peut-être un bouleversement dans ce domaine-là intéressant. Les impôts sur production sont évidemment contre-productifs, mais c'est un bout du sujet. Je veux dire, il faut avoir envie de produire. Je rappelle toujours que au début du XXe siècle, il y avait 200 entreprises qui faisaient de l'automobile entre Puteaux et Courbevoie. Donc les gens avaient envie, c'est un goût, il faut avoir envie de faire ça.
Oui. Et on voit que les dépendances sont de plus en plus compliquées à assumer en temps de crise et que peut-être on a besoin de reproduire, si ce n'est en France, en tout cas en Europe. Allez.